Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Pascal Berthelot. Je me trouve actuellement dans une ferme dans l'Oise. Le Point du Jour, c'est le nom de la ferme, dans le village de Sillé-le-Long, au nord-est de Paris.
Dis papa, comment on fait l'agriculture ?
Telle est la question qu'on va se poser ensemble dans cette série de podcasts. Voir de nos propres yeux, poser des questions, découvrir en se rendant nous-mêmes sur le terrain dans les exploitations agricoles la réalité de l'agriculture française d'aujourd'hui. En termes simples, abordables, mais sans concession, en posant toutes les questions, même celles qui fâchent.
9 agriculture, elle aussi change.
C'est un diesel. Eh bien, le diesel, il roule au colza.
Donc, grâce à ces plantes, on lutte contre le coronavirus.
Et c'est le début de l'aventure de la filière oléoprotéagineuse en Europe et en France en particulier.
Quand on cultive du colza, du tournesol, on ne coupe pas un arbre.
On coupe pas un arbre, on fait des petites fleurs.
Je suis à l'entrée de la ferme, devant moi la cour, des bâtiments métalliques. Je m'approche, je m'avance. Alors aujourd'hui, dans cette ferme de Sillé-le-Long, nous allons découvrir des plantes un peu mystérieuses que l'on connaît bien mal et qui pourtant représentent 12% des plantes cultivées en France. Ce sont des plantes étonnantes qui jouent un rôle parfois très important dans la beauté de nos paysages, dans l'écologie, dans la défense de l'environnement, dans la géopolitique mondiale, oui, je vous assure, et bien sûr dans le revenu des agriculteurs. Bref, des plantes extrêmement importantes aujourd'hui pour notre avenir et pour l'avenir de la planète. Je vous promets de vous parler sans langue de bois, en toute transparence. Première information que je vous donne, ce podcast et ceux qui suivront sont réalisés à la demande et financés par la filière française des huiles et protéines végétales. Il est, 8h30, il fait plutôt frais ce matin, quelques degrés, je pense 5 degrés. Le ciel est dégagé, il fait même très beau, j'ai le soleil dans le dos. Allez, suivez-moi, on va découvrir quelles sont ces plantes et à quoi elles servent. Je rentre dans la ferme, je vois une petite porte, je me dirige vers la porte de la maison.
Dis papa, comment on fait l'agriculture ?
Guillaume Chartier, enchanté.
Enchanté.
Content de vous voir en vrai.
Eh ben ça y est,
de visu.
Par les temps qui courent.
Je peux rentrer.
Sans prix. Rentrez Pascal.
On se tutoie.
On peut se tutoyer, oui.
Allez, ça marche.
Donc Christine, ma femme.
Merci. Bonjour Christine.
Bonjour.
Arrêt sur image, je rentre dans la cuisine de Guillaume. Guillaume, c'est donc l'agriculteur qui nous accueille ce matin. Il cultive 200 hectares au total, une centaine d'hectares de blé, des betteraves, du colza. On ira voir son colza tout à l'heure. Mais c'était pas prévu, il y a sa femme avec lui ce matin. Et elle nous a préparé des petits cannelets. Je vous dis que ça, ils sont super bons. Et ils nous offrent évidemment un bon café.
Alors tu vas nous expliquer tout, parce que c'est un vrai mystère. Qu'est-ce que ça veut dire une plante oléagineuse ? Le colza par exemple, ou le tournesol ?
Le colza, en fait une plante oléagineuse, c'est une plante qui va faire de l'huile. C'est une plante qui est riche en huile. Il y a deux parties dans la graine. Il y a la partie huile, qui est la partie liquide, et la partie solide, qui est la partie protéine.
Donc en fait, c'est une plante qui donne de l'huile, mais pas que de l'huile. Qu'est-ce qu'elle donne aussi ?
Alors, la protéine qu'elle donne, en fait, c'est une protéine qui sert à l'alimentation animale, essentiellement.
Et comment on fait pour avoir, le processus de fabrication, c'est quoi pour avoir d'un côté de l'huile et de l'autre côté de la protéine ?
Alors, en fait, c'est tout simple, c'est mécanique uniquement. C'est un système de presse. Donc, on presse la graine, on appelle ça la trituration, et ça permet, par pression, c'est comme... Comme les olives. Les olives, on presse les olives, il y a une partie solide, une partie liquide. Et bien là, c'est pareil. Il y a de l'huile d'un côté et derrière, il reste de la protéine.
Est-ce que tu as de l'huile, toi, ici, par exemple ?
Ah oui, j'en ai. Tu veux en
faire ? Ah oui, vas-y, sors-moi la bouteille. J'aimerais qu'on regarde un peu dessus.
Tiens, ouais, fait exprès. En tant que producteur de colza.
Alors, une bouteille toute verte. Le Sieur Fleur de Colza Oméga 3. Produit, cultivé et produit en France. 500 agriculteurs partenaires. Ça marche. Donc, c'est français. Première information, c'est que ça vient de France. On ne le sait pas forcément. C'est cultivé dans des champs français. La partie protéine, tu m'as bien dit qu'il y avait l'huile d'un côté, dans les oléoprotéagineux, et de l'autre côté, il y a la protéine, la partie solide, ce qui reste après le pressage. Qu'est-ce qu'on en fait de cette partie protéine ? D'abord, à quoi ça ressemble et quelles sont les utilisations possibles ?
C'est une matière qui est donc dégraissée par nature, puisque l'huile en a été extraite. Et derrière, on la remet... Oh, c'est comme une farine, on en fait des petits bouchons, et ces petits bouchons, ils servent à l'alimentation animale. Des bovins, des cochons, de tout ce qui est élevage, volaille. Par contre, on n'est pas souverain en France.
C'est-à-dire, comment ça, on n'est pas souverain? C'est-à-dire, pour l'aliment de nos bétails?
Pour l'aliment du bétail, tout à fait. On n'est pas autosuffisant.
Et cette importation, elle vient d'où?
Eh ben, elle vient essentiellement d'Amérique. Alors, Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Ben alors ça, c'est le soja, c'est le fameux soja.
C'est le fameux soja qui peut effectivement être OGM. Et là, c'est ce que nous ne voulons pas en France.
C'est-à-dire qu'en achetant cette bouteille d'huile-là, on réduit nos importations de soja?
Tout à fait. Tout à fait, parce que s'il y a un débouché pour l'huile, derrière il y a un débouché aussi pour le tourteau animal, pour l'alimentation animale. Si demain on n'a plus de débouché d'alimentation animale, on n'a plus d'équilibre économique et on va se désintéresser de la culture qui ne sera pas valorisée.
D'accord.
La valorisation de la graine se fait bien par l'alimentation animale d'un côté et l'alimentation humaine de l'autre au niveau des huiles.
Donc partie solide compris, le tourteau qui vient des oléagineux. Il y a aussi d'autres plantes dans cette filière, les protéagineux. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns et nous dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en obtient?
Alors les protéagineux, ce sont des plantes qui sont des matières riches en protéines. Parce que des protéines, il y en a dans toutes les graines. Mais il y a des matières riches en protéines dans les protéagineux. Ce sont les pois, les pois chiches, les lentilles, la févrole... Et puis j'en oublie.
Toi, tu as cultivé des pois protéagineux à une époque?
J'ai cultivé des pois protéagineux que je faisais en multiplication de semences.
Et ces pois-là, ça sert à quoi? Est-ce qu'on en retire des protéines? Qu'est-ce qu'on en fait?
On en retire des protéines qui servent essentiellement à l'alimentation animale.
D'accord.
Mais ça permet des équilibres différents et des rations bien équilibrées pour l'élevage.
Ah oui, j'ai demandé à un expert de venir nous rejoindre.
Bonjour Pascal, bonjour Guillaume.
Bonjour Pierre-Marie.
Vas-y, installe-toi. Est-ce que je te sers un café?
Avec plaisir.
On se tutoie, Pierre-Marie?
Oui, bien sûr.
Alors Pierre-Marie, Décoré, c'est le nom. Tu es responsable des études économiques dans le groupe Avril, l'industriel numéro un qui transforme et commercialise les graines de plantes riches en huiles et riches en protéines. Alors on était, Pierre-Marie, c'est très important que tu viennes nous éclairer, on était justement en train de parler des protéines, de la dépendance de la France vis-à-vis des importations de protéines qui viennent d'Amérique. Et Guillaume me disait que les protéines qu'on produit en France grâce au colza, grâce au tournesol, permettent de réduire nos importations venues d'Amérique. C'est bien vrai ça?
Oui, dans les années 70, on a importé jusqu'à 7 millions de tonnes de soja. Aujourd'hui, on peut dire que la France importe, en moyenne, selon les années, entre 4 et 5 millions de tonnes.
Et la différence?
La différence vient de France et puis des efforts qui ont été faits par les industriels, notamment de la nutrition animale, pour enlever le soja des formulations, c'est-à-dire des recettes de ce que l'on donne à manger aux animaux d'élevage.
Est-ce que ce soja qui vient d'Amérique, à la fois du Brésil ou des États-Unis, alors je pense notamment au Brésil, je me tourne d'abord vers l'agriculteur, est-ce que c'est ce soja-là qui est responsable de la déforestation? Moi je vois l'actualité, les feux de forêt l'été, c'est bien le même soja dont on parle?
Oui, c'est bien le même soja dont on parle, où là-bas, comme ils ont des débouchés et un faible coût à la production, ils ont tendance à vouloir en faire plus et toujours plus. Contrairement à chez nous, où les terres agricoles, c'est plutôt les terres agricoles qui se restreignent chez nous en France. Il y en a de moins en moins.
Tu me le certifies. Quand j'achète de l'huile comme ça, quand on cultive du colza, du tournesol, on ne coupe pas un arbre?
On ne coupe pas un arbre, on fait des petites fleurs.
Ok, on va aller voir si tu veux ces petites fleurs. C'est parti, tu nous emmènes dans un champ?
Eh ben allez, on va aller voir un champ de colza, c'est en fleurs en ce moment, ça tombe bien.
Parfait, allez c'est parti, allons-y messieurs. Pierre-Marie, on y va.
Bon, Pascal, on va prendre ma voiture là, on va prendre le pick-up.
Ouais.
C'est un diesel, et ben le diesel il roule au colza.
Attends, ta bagnole elle roule au colza?
Quand tu fais ton plein, tu mets du gasoil et le gasoil il est B7. Ça veut dire qu'il y a du DSR dedans, du biocarburant à base de colza.
Allez, je vous laisse monter de l'autre côté?
Ouais.
Arrêt sur image, on est dans la voiture, le trajet est sympa, on vient de passer un village. On a vu l'église, évidemment, quelques maisons et puis des champs maintenant, des champs, beaucoup de champs. On s'engage sur un petit chemin, on avance
Et ce petit chemin, oh là, on voit une parcelle de colza, je crois qu'on arrive. On avance dans la parcelle de colza. Ce qui est très impressionnant, c'est la couleur jaune vif, c'est vraiment jaune vif. Hein. Là, on a l'impression que c'est jaune poussin. Et toi, l'agriculteur, quand tu arrives ici, que tu vois ce champ magnifique, qu'est-ce que tu ressens ?
Ah, moi, je suis bien là. Regarde, c'est jaune, c'est prometteur. Il y a de la verdure. Et puis, moi, j'ai pas à me plaindre, hein, le paysage. Tu en parlais en descendant de voiture. C'est le meilleur bureau que l'on puisse avoir. Hein.
Ouais, sur un point culminant, en plus, là, c'est magnifique. Tu as des chevaux juste derrière. C'est superbe. Ok, à quoi elle sert cette... Alors, bien sûr, à gagner ta vie. Mais est-ce qu'elle a d'autres rôles, d'autres bienfaits, cette plante ?
C'est une plante qui va ramener beaucoup de matière organique au sol. Tous les insectes qui vivent dans le sol, les vers de terre, tout, ça ramène de la matière organique qui va se décomposer. Et voilà, il y a un tas de cycles dans le sol.
Est-ce qu'elle est bonne, j'allais dire, contre le réchauffement climatique, puisqu'elle capte beaucoup de carbone ?
Oui, alors effectivement, au niveau des gaz à effet de serre, c'est une plante qui va être qui a de très bons ratios.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'elle va capter beaucoup plus de carbone qu'elle va en émettre en produisant ses graines. Vraiment, on est sur des équilibres agronomiques qui sont extraordinaires.
Pierre-Marie, quel est l'intérêt de diversifier et d'allonger les rotations, comme vous dites ?
Les avantages sont multiples. Ça permet de briser le cycle des ravageurs et des adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, les insectes qui sont dommageables en fait aux cultures. Ça permet aussi de réduire les apports en engrais. Ce sont notamment les légumineuses qui permettent de fixer l'azote de l'air et de le rendre au sol.
Exemple de plantes légumineuses ?
Le pois, le soja, la lentille. Vous avez beaucoup de légumineuses qui peuvent être produites en France, qu'elles soient à graines ou fourragères.
Et donc ces légumineuses, c'est quoi leur principe ?
Le principe de ces cultures légumineuses, c'est elles ont ces plantes ont la faculté unique de capter l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. À quoi ça sert ? Eh bien, ça permet de réduire les besoins en azote, donc la fertilisation azotée, les engrais, lors de la culture suivante.
Ça permet de diminuer les engrais que versent les agriculteurs.
Ça permet de diminuer les engrais, donc ce sont autant de charges en moins pour les agriculteurs. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la fertilité. C'est bon pour le rendement de la culture.
Alors là, on est dans un champ de colza tout jaune autour de nous, magnifique. Je me tourne vers toi, Pierre-Marie, tu es notre expert. À un moment ou à un autre, on ne faisait pas de ces plantes ici en France. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en fasse aujourd'hui ?
L'agriculture française et européenne a connu une modernisation très rapide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Charles de Gaulle, discours sur l'agriculture, 1968.
Notre agriculture, elle aussi, change. L'évolution agricole française est certaine. Pour ce qui est de la production, de la productivité, du travail agricole, nous sommes très très loin du point où nous en étions il y a 30, 20 et même 10 ans. On est saisi par le progrès qui s'est accompli chez nous.
Cette modernisation s'est traduite par un besoin croissant en protéines végétales pour alimenter les élevages.
Et nous, on ne le faisait pas à ce moment-là ?
Non, on a choisi de privilégier les importations. Et pourquoi ? Eh bien parce que les plantes riches en huiles et en protéines ont été laissées en dehors du cadre protecteur de la politique agricole commune au début des années 1960. Et tout cela nous a conduit à importer toujours davantage de soja. Le problème, c'est qu'à un moment, on a pris conscience de notre dépendance.
À quel moment ?
Au début des années 70, 1973 très précisément, les États-Unis ont décrété un embargo sur leurs exportations de soja.
Pourquoi ?
Sécheresse. Ils avaient besoin du soja produit aux États-Unis pour alimenter leurs propres élevages. Et donc les exportations se sont arrêtées, plongeant l'agriculture européenne dans une impasse.
On n'avait plus à ce moment-là assez de soja pour nourrir nos propres animaux ou alors à des coûts faramineux, c'est bien ça ?
Exactement. Il y avait toujours du soja qui arrivait en Europe, mais à des prix beaucoup plus élevés, fragilisant l'équilibre économique de beaucoup d'exploitations agricoles. Et c'est à partir de ce moment-là que les agriculteurs se sont rassemblés, ils se sont concertés pour savoir comment réduire cette dépendance aux protéines importées. Et c'est le début de l'aventure de la filière oléoprotéagineuse en Europe et en France en particulier. C'est le début de la structuration de la filière colza avec des agriculteurs qui ont bien sûr cultivé ces plantes, qui ont investi, mis de l'argent en commun pour financer des outils industriels, donc des unités de transformation, qu'on appelle la trituration de colza, pour aller produire de l'huile et de la protéine, et puis valoriser ces productions en France et plus largement en Europe.
Alors toutes ces plantes riches en huile, riches en protéines, peuvent aussi nous servir ou nous aider, c'est une arme à sortir du pétrole qui un jour arrivera peut-être à son terme, probablement. Et en tout cas, pour sauver la planète, il va falloir qu'on s'en sorte. Et ces plantes-là peuvent nous aider, Guillaume ?
Oui, alors, c'est la chimie verte, c'est la chimie du renouvelable. Notamment, tu vois, j'ai une petite plaquette de bois agglomérée dans les mains. Vas-y, je te la donne.
On dirait du contreplaqué.
On dirait du contreplaqué. C'est un aglo qui est fait avec... Il n'y a plus de colle dedans. C'est de la protéine végétale à base de colza qui vient faire le liant.
C'est de la colle de colza qui nous fait ça.
Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est un environnement qui est sain, qui est, voilà, on est autonome, on n'est pas dépendant de qui que ce soit pour le produire. On l'a en France.
Je te prends un autre exemple, Pascal. Quand on produit du biodiesel, on a besoin de méthanol et d'une huile végétale. À la sortie du procédé de transformation, on obtient un biodiesel, un ester méthylique et de la glycérine végétale.
La glycérine végétale.
Cette glycérine végétale, c'est donc un coproduit de la production de biodiesel et c'est une matière première très utilisée dans la chimie du renouvelable. Je prends un exemple, le gel hydroalcoolique.
Le gel hydroalcoolique.
On retrouve de la glycérine végétale dans le gel hydroalcoolique.
Donc grâce à ces plantes, on lutte contre le coronavirus.
On participe à la lutte, en tout cas on participe au respect des gestes barrières grâce à des produits comme la glycérine végétale.
Donc de la colle pour faire du contreplaqué, du gel hydroalcoolique. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de biochimie, si on peut l'appeler comme ça ? Vas-y Guillaume.
Au niveau des cosmétiques, c'est des ingrédients aussi importants pour l'industrie des cosmétiques.
Pierre-Marie ?
Ces plantes riches en huile et en protéines, Pascal, elles sont au carrefour de trois grandes transitions. Une transition alimentaire. Nous avons besoin de rééquilibrer nos apports en protéines pour aller vers davantage de végétales et moins de protéines animales. Transition agricole, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, ces plantes, elles ont beaucoup de vertus dans les champs. Elles ont des vertus agronomiques, sont de bonnes têtes de rotation, elles permettent de réduire les engrais, les pesticides. Donc elles sont au cœur des changements de modèles, des changements de pratiques agricoles. Et ces plantes, elles nous permettent également de fournir de la biomasse, c'est-à-dire de la matière végétale, pour remplacer des énergies ou des matériaux issus d'énergies fossiles. Dans le secteur des transports, avec le biodiesel, mais également dans d'autres secteurs, comme la chimie du renouvelable.
Carrefour de toutes les transitions, Pierre-Marie, en effet. Et tu as parlé du gel hydroalcoolique, des colles, des peintures. On verra ça, notamment le cas du gel hydroalcoolique, dans le prochain podcast. Je vous invite à le suivre dans quelques temps, bientôt, toujours sur Internet, vous pourrez nous écouter. Merci Guillaume de nous avoir accueillis sur ton exploitation et dans ce champ de colza magnifique.
Merci à vous.
Merci Pierre-Marie de nous avoir éclairé, expliqué l'histoire de cette filière et ce combat qui a été mené par une poignée d'hommes. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain podcast. Dis papa, comment on fait l'agriculture ?